Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro, événement de Chut, on écoute la télé. Nous allons vous proposer aujourd'hui une spéciale sur un fil. Le film sort mercredi dans les salles. Reda Kateb, le réalisateur de ce magnifique film, sera avec nous dans un instant. Et puis, on va parler également de Sentinelle Ukraine qui démarre demain soir sur Ciné Plus OCS. À cette occasion, le producteur Antoine Zimalka, le réalisateur Jean-Philippe Amar et le comédien Louis Pérez seront nos invités. On va parler également de la fiction Événement dans l'ombre, tiré du livre de Gilles Boyer et de Édouard Philippe. Nous aurons le directeur de collection Pierre Scholler. Gilles Boyer également nous rejoindra et les comédiens Evelyne Brochu et Sofiane Kames également seront nos invités. Grande spéciale Murder Club également qui débarque demain soir sur M6. Le réalisateur Renaud Bertrand, les comédiens Catherine Osmalin, Vinnie Dargaud, Tiffaine Davio et Eric Cantona seront avec nous. Et puis, nous parlerons également de Brigade du Fleuve qui débarque samedi à 21h10 sur France 3. Roxane Turmel, qui incarnait Sylvia dans Plus belle la vie, va nous parler de ce nouveau personnage. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti, on va démarrer tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Sur un fil qui sort mercredi au cinéma. On est très heureux de recevoir son réalisateur aujourd'hui avec nous, Reda Kateb. Bonjour Reda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a vu le film il y a quelques semaines justement en avant-première et on a découvert effectivement un film joyeux. Je crois qu'on peut se dire aussi ça, même si ça traite effectivement des enfants malades à l'hôpital avec les clowns et puis ce personnage qu'interprète Louise Sauvage de façon absolument poétique et merveilleuse. Et on est vite embarqué en fait dans l'histoire de cette jeune fille.
Ah ben, je suis content de vous entendre dire que c'est joyeux. En tout cas, l'idée, c'est de diffuser de la joie et puis surtout de rendre hommage aussi à ces personnes qui sont dans la vie avec tout ce que ça comporte, de combat parfois avec la santé, avec plein de choses, mais qui avancent et qui se battent et puis qui prennent soin et les uns des autres, quoi.
Alors, le personnage d'Aloïse donc est dans une troupe, à un moment donné va avoir un accident et donc va être un peu handicapé, va pas pouvoir travailler pendant quelques mois. Évidemment, il va falloir qu'elle trouve un peu une parade et c'est son comparse Philippe Rebaud qui va lui donner un petit peu Poirot dans le film, qui va lui donner un peu justement cette idée de peut-être le rejoindre. Est-ce qu'elle va trouver une vocation ou pas? C'est ce qu'on va découvrir en tout cas. Va-t-elle trouver un chemin qui va l'embarquer? C'est un peu tout ça aussi, c'est l'histoire de ce parcours de femme.
Oui, complètement. Le film, c'est l'histoire d'une acrobate qui tombe et qui devient clown à l'hôpital. Et donc c'est aussi une histoire de résilience, une histoire de rebond, une histoire de qu'est-ce qu'on fait de nos chutes, qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose, un rêve s'écroule, mais finalement derrière un trésor plus grand est caché, peut-être plus petit, plus discret, mais plus grand. Et elle qui est finalement au début dans une bulle un peu opaque, un peu hermétique aux autres, pleine de talent et une espèce de force de la nature, mais en même temps sans racines, sans lien, dans ce monde des clowns, et notamment avec, dans la rencontre avec un enfant, elle va découvrir la puissance et la richesse des liens.
Des personnages autour qui gravitent, celui de Philippe, bien sûr, hein, mais pas que. Il y a Sarah Giraudeau aussi, qui est dans le service de l'hôpital. Il y a tout un joli casting. Mais on va parler un peu quand même de la base aussi de cette histoire. Caroline Simons, on peut en parler un peu?
Ah oui, oui, alors Caroline, c'est vraiment avec elle que tout s'est fait. C'est en lisant son livre qui s'appelle Le journal du docteur Giraffe que j'ai découvert ce monde, que j'ai découvert que clown à l'hôpital, c'était un métier. C'est ce qui m'a fait me dire que j'avais peut-être envie d'en faire un film, parce que en lisant ce livre, j'avais tellement d'images qui me venaient que les choses se traduisaient vraiment en images. Et puis je pressentais ces lieux et cette situation comme vraiment une forme de révélateur de d'humanité. Et puis j'ai rencontré Caroline, je lui ai dit que j'avais peut-être envie de faire un film, que j'étais pas sûr. Et elle m'a dit pas de problème, elle m'a ouvert toutes les portes de l'hôpital, de l'association. J'ai pu observer, enquêter, faire des interviews pendant 6 mois à peu près avant de commencer à écrire le scénario. Et ensuite, Caroline a lu toutes nos versions de scénario. J'ai passé des journées entières chez elle à prendre des notes, d'anecdotes, de choses qu'elle me racontait. Elle a aidé les acteurs à trouver leur clown, notamment Philippe Rebaud avec Poirot et Aloïse dans Zouzou. C'est vraiment une histoire qui s'est fait main dans la main avec Caroline et avec l'association Le Rire Médecin, dont je suis parrain depuis maintenant plusieurs années.
Reda, tu t'es aussi investi beaucoup pour découvrir cet univers et tu as vécu des expériences quasiment similaires à ce que a vécu justement le personnage d'Aloïse dans le film au début avec justement cette jeune fille Baya.
Oui, il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont tirées d'expériences que j'ai vécues. J'avais besoin d'aller prendre dans la réalité des moments qui me permettraient d'enclencher aussi mon travail de fiction. Ça me paraissait très difficile d'être dans l'imaginaire quand il s'agit d'une chose aussi particulière et puis de lieux aussi codifiés que l'hôpital, quoi, et tout ce qui s'y passe. Donc il y a pas mal de moments du film. Et en effet, la première chambre où je suis allé en observation, c'était à l'hôpital des enfants malades Necker à Paris. Et la toute première chambre où j'ai observé, c'était la chambre d'une petite fille qui s'appelait Baya, qui avait 8 ans et qui était en soins palliatifs. Et tout comme Jo dans le film, j'étais en blouse blanche avec un badge de rire médecin. J'étais censé observer seulement et ne rien dire. Et je me suis retrouvé à me rapprocher du lit de cette petite avec les clowns et à chanter moi aussi la chanson Une souris verte avec cette petite qui m'a regardé dans les yeux. Et tout comme Jo dans le film, j'ai eu besoin de quitter la pièce parce que c'était trop d'émotions. Et ensuite, les clowns sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, elle a cligné des yeux, ça veut dire qu'elle était avec nous, elle a réagi, c'est génial, viens, on va à la prochaine chambre. » Et la chambre d'après, c'était que des éclats de rire et une situation beaucoup plus légère. Et c'est ce soir-là que je me suis dit « Je ferai ce film ».
C'est beau. En tout cas, Sur un fil, ça sort mercredi au cinéma. On va écouter la bande-annonce et puis on va revenir juste après avec toi, Reda, pour continuer évidemment à en parler. À tout de suite.
Je peux même plus payer mon loyer. Tu fais comment, toi ?
J'ai mon clown. C'est spécial. Je te présente Thierry. Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous.
Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie.
On ne va pas le voir du tout aujourd'hui ?
Je pense pas.
Tu me dirais pas quelque chose ? Parce que si t'es clown, tu mets ton nez. C'est le plus petit masque du monde.
Attends, me dis pas que c'est un vieux à toi.
Eh oui, c'est celui que je mets quand je suis enrhumé.
Ça fait beaucoup de bien, Yacine, de vous voir.
Je peux te faire un bisou?
Et là, avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs.
Pourquoi ça arrive à moi? Tu sais, puisque t'es magique. Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait.
Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi.
On peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous.
Ça serait bien.
Comment on fait pour trouver la bonne distance?
On pleure parfois et puis on partage les sourires quand ils sont là.
Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown?
Non.
Enfin, l'acrobate on l'admire, le clown on l'aime, voilà.
Allez, sur un fil, mercredi au cinéma Reda Kateb est notre invité aujourd'hui. Sur un fil, c'est un peu la sensation qu'on ressent tout au long du film. On a l'impression d'être tout le temps sur un fil, sur le fil de l'émotion, sur le fil du rire, sur un fil de plein de choses différentes finalement qui viennent se percuter.
Oui, bah, tout comme tous les personnages du film sont sur un fil également. Et tout comme moi, je l'ai été tout le temps de la fabrication de ce film et encore aujourd'hui peut-être jusqu'à ce qu'il sorte. Mais il y avait besoin de ne pas tomber de ce fil, de pas tomber dans le pathos, de pas tomber dans quelque chose qui serait un peu faux aussi, d'édulcorer ce monde de l'hôpital. Il y avait l'envie d'être dans la vérité de cette histoire. Et donc oui, ça mêle beaucoup de choses, ce titre. Ça mêle évidemment le lien entre les acrobates et les clowns, mais aussi des vies qui sont parfois un peu en suspens, où personne n'est totalement sur ses appuis et où tout le monde avance malgré tout.
Oui, avancer, c'est aussi ça. C'est un peu une leçon de vie parce que Joe va avancer grâce à Mademoiselle Zouzou. Elle va s'apporter plein de choses grâce à ce personnage. Elle va apporter plein de choses à ce petit garçon aussi, avec son papa joué par Samir Ghesmi, qui est juste incroyable aussi. Il y a eu un casting sur les enfants qui a été fait, un gros gros travail, hein, franchement.
Oui, ça nous a pris du temps de trouver les enfants qui jouent dans le film, et notamment Massi Limine qui joue Yacine, qui est un enfant extraordinaire avec lequel j'ai eu la chance de travailler. J'étais vraiment subjugué par sa manière d'être sur le plateau et de son intelligence des scènes. Il avait à la fois quelque chose de très sensible, d'intuitif, totalement un enfant de son âge. Il avait 8 ans quand on a tourné, et en même temps une grande intelligence, une grande maturité qui faisait que j'avais finalement assez peu d'indications à lui donner, si ce n'était des indications un peu chorégraphiques et de rapport à la caméra. Mais sinon, il avait compris son rôle et il avait lui-même une histoire à raconter avec ce film. Ce que j'ai aimé dans le travail avec tous les acteurs d'ailleurs sur ce film, c'est de voir comment chacun et chacune s'est approprié cette histoire et a continué d'écrire le film en le tournant ensemble, quoi. C'est pas une mise en boîte d'un scénario, c'est vraiment un film qu'on a créé sans cesse. Chaque jour on prenait les scènes et puis on se disait, bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce dialogue il est pas terrible, je pourrais dire ça plutôt que ça. Et puis il y a beaucoup d'improvisation aussi avec les enfants. J'avais pas du tout envie que les enfants disent leur texte par cœur, donc finalement on travaillait beaucoup plus sur leurs mots à eux. Et c'est ce qui donne peut-être des fois dans le film une sensation un peu de documentaire. Mais moi, c'est mon but, c'est justement qu'on sente pas le cinéma et qu'on ait l'impression d'être dans la vie, quoi.
Ouais, ça s'approche vraiment de la réalité à tel point que le troisième clown, c'est un vrai clown, Jean-Philippe.
Oui, alors Jean-Philippe Buzot, il est clown à l'hôpital depuis 30 ans maintenant, à l'association Le Rire Médecin. Et puis, il est également clown au Cirque Bouglione, à nouveau cette année, pour la deuxième année de suite. Il a fait du théâtre pendant une vingtaine d'années, mais c'était la première fois qu'il jouait devant une caméra. Et il est extraordinaire. Il me rappelle Chaplin, Buster Keaton, certains clowns qui ont à la fois le rire et aussi toute la poésie.
Une poésie, une fantaisie absolument dingue. Et on apprend des choses en plus en allant voir ce film, parce que moi, le premier, je pensais que les clowns qui allaient à l'hôpital, c'était des bénévoles qui faisaient partie d'associations, etc. Et enfin, on s'aperçoit, en voyant le film, que c'est un vrai métier, qu'il y a des salariés qui sont clowns à plein temps, finalement.
Oui, moi, c'est ce que j'ai découvert en lisant ce livre, Le journal du docteur Girafe, c'est que c'est un métier, et que c'est un métier, finalement, au carrefour de la... des arts vivants et du soin, et que ce qui se passe dans une chambre d'hôpital, en fait, ça a valeur que pour les gens qui sont là. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de médiatisation, bien sûr. Ça redonne du sens aussi à ce qu'on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des choses pour être applaudi, ou est-ce qu'on fait des choses pour faire du bien et parce que ça nous fait du bien. Et les clowns, ils sont là-dedans. Jean-Philippe, quand il en parle, il dit que c'est le plus beau métier du monde.
En tout cas, c'est un film qui fait du bien. Et moi, je vous le dis, allez voir sur un film, ça sort mercredi dans les salles. Reda, comment tu te sens, là, deux jours de la sortie du film? Est-ce que c'est toujours un peu quelque chose, une émotion intense qu'on peut ressentir quand le film... Bah, le public, ce coup-ci, va se l'approprier après toi, peut-être approprier justement l'histoire de Caroline Simmons, de ce qu'elle a écrit.
Alors, j'ai pas vraiment le temps de prendre du recul sur quoi que ce soit. J'essaie juste de reprendre un peu ma salive entre deux interviews et deux débats avec les salles. On est en tournée maintenant depuis un mois et demi à peu près. Et voilà, je suis très 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 heureux de commencer à partager ce film avec les gens. J'essaye de profiter de chacun de ces moments justement avec les salles, avec les spectateurs. Tous les débats qu'on fait après les projections sont très forts. Ce que les gens me renvoient est extrêmement fort. Et ben jamais j'aurais osé rêver le quart déjà de ce qui est en train d'arriver. Donc après la sortie, évidemment, ben on espère que le film aura du succès. Pour nous, pour l'association aussi, le Rire Médecin, et pour tous ces gens. Mais ce qui se passe déjà maintenant, c'est réel, j'en suis très très heureux.
Un vrai hommage aux clowns qui vont dans les hôpitaux justement donner un peu de gaieté et de joie aux enfants malades. Un film plein de joie, voilà, plein de moments de rire, d'émotion. Il y a plein de choses qui se percutent. En tout cas, on vous conseille d'aller le voir. Ça s'appelle Sur un fil, et c'est donc mercredi dans les salles. Merci Reda d'avoir été avec nous.
Merci, merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Ça fait beaucoup de bien, Yacine, de vous voir.
Je peux te faire un bisou?
Et là, avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs.
Pourquoi ça arrive à moi? Tu sais, puisque t'es magique.
Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait.
Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi.
On ne peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous.
Je lâcherai rien.
Comment on fait pour trouver la bonne distance?
On pleure parfois et puis on partage les sourires quand ils sont là.
Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown?
Non.
Un acrobate, on l'admire, le clown, on l'aime. Voilà.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, on parle de Sentinelle Ukraine, de la série Dans l'ombre, de Murder Club et de Brigade du Fleuve. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Dès son réveil au premier cri, sa tête dépasse à peine du lit.
Bouille de bonheur et boule de joie, petit câlin, cela va de soi. Mademoiselle a volé mon cœur, a bousculé tous mes horaires.
Elle a le sourire dans les yeux, elle a même fait pleurer mes vieux.
Sur ses deux jambes, à quatre pattes,
mademoiselle joue les acrobates.
Elle tape des pieds,
bouge la tête, sur ses accords elle fait la fête. Et puis elle danse, et puis elle chante, et puis elle danse, et puis elle chante.
À chaque pas sa maladresse fait d'elle un ange, ma princesse.
Celle qu'on imagine dans les contes,
elle pourrait vous changer le monde.
Elle pourrait arrêter une guerre, mademoiselle en marinière.
Elle a le sourire dans les yeux, elle a le fou rire malicieux.
Sur ses deux jambes, à quatre pattes,
mademoiselle joue les acrobates.
Elle tape des pieds,
bouge la tête, sur ses accords elle fait la fête. Et puis elle danse, et puis elle chante,
Quand vient le soir de mon départ, elle désaccorde mes guitares.
Elle vole même mon inconscience pendant que je traverse la France.
Mademoiselle fait son cinéma, elle veut rester avec papa.
Elle a les yeux de l'amour à la fenêtre guettant mon retour.
Et puis elle danse,
et puis elle chante, et puis elle danse, et puis elle chante, et puis elle danse, et puis elle chante.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé va s'intéresser à Murder Club qui débarque sur M6, sa nouvelle série événement réalisée par Renaud Bertrand de Main de Maître. Bonjour Renaud, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Un habitué de l'émission, Renaud. Et franchement, là, il y a un travail encore de fait sur cette mini-série qui va nous embarquer à travers ces deux héros un peu bannis, chacun de leur côté, qu'on va découvrir incarnés par Tiffen Davio et Eric Cantona. Où a été pris l'idée de rassembler ces deux comédiens?
Alors, Eric, on a eu l'idée dès le départ. Enfin, moi, en lisant les scripts, j'ai tout de suite pensé à lui parce que je trouvais ça tellement jouissif, l'idée d'avoir Eric Cantona qui est quand même cette espèce de bloc indestructible dans le rôle d'un loser... complètement détruit, et d'avoir en face de lui, il fallait absolument quelqu'un, comme dans tous les duos, de totalement à l'opposé, quoi. Donc une fois qu'on a eu Eric, on s'est mis à chercher le personnage féminin, et Tiffen s'est imposé tout de suite. Alors en plus, tout le monde, on la connaissait, on adorait ce qu'elle avait fait, on a vu des séries, moi je trouve que c'est une comédienne incroyable, j'avais vu plein de choses, notamment HP, et les scénaristes la connaissaient également. Ça s'est imposé vraiment très simplement, quoi, parce que c'est vraiment, ils sont tellement différents, tellement en opposition, que c'était une évidence.
Alors on va y découvrir Tiffen, justement, qui est une policière, alors, qui a fait une connerie, hein, on peut le dire, hein, et qui va se retrouver un peu mis au placard, justement en essayant de démasquer un tueur en série. Et puis Daniel, qui lui aussi a été mis un peu de côté après quelques bourdes aussi, quelques années auparavant, qui essaye de faire un peu son retour et qui va être démonté totalement à la télévision. Et ces deux personnages que tout oppose, effectivement, vont se retrouver pour essayer de retrouver une jeune fille qui a disparu. Et où là, on est sur la vraie affaire, justement, du tueur en série. Puisque là, et ben, ils ont raison, en fait. Mais personne va les croire. Et c'est cette bataille, justement, qu'ils vont avoir chacun pour retrouver leur dignité, en quelque sorte, qui va se nouer aussi. On est dans la comédie policière, hein, là. Hein.
Oui, c'est un genre très, très spécial, hein, parce que à la fois, il y a des arènes qui sont très, très étranges, très, même un peu trash à des moments, quoi. Et il y a de la comédie au milieu, quoi. Donc, mais ça, c'est vraiment de la comédie policière comme les Anglais savent admirablement bien le faire. Et c'est un genre que je trouve très, très, très réjouissant, quoi. Mais qui est un genre très subtil, très intéressant à construire, mais pas si fréquent que ça, en fait, finalement, dans nos contrées.
Non, c'est vrai. Oui, non, mais c'est clair. Et puis là, ce qui est bien, c'est que, voilà, on parle de choses graves avec un tueur en série, des enlèvements, etc. Mais il n'y a pas de scène d'une violence extrême. C'est regardable, vraiment. Toute la famille peut le regarder, quoi. Hein, à partir de 10 ans, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que c'est ça aussi la comédie policière que ça peut apporter. C'est traiter des sujets plus graves sur un peu le ton de la comédie aussi.
Oui, et puis de toute façon, dans la vie, il y a toujours un côté comique dans les situations les plus tragiques. Donc ça, c'est intéressant d'exploiter ça, quoi. Et là, c'est vraiment le principe de comédie du duo, quoi, avec, comme on a pu le voir dans toutes les comédies mythiques, quoi, qui est exploité là. Et c'est vrai que d'avoir à côté de ça une intrigue qui est vraiment quand même super grave, avec de l'émotion aussi, quoi. Je trouve que ça permet de développer des émotions très différentes, et je trouve ça assez captivant à faire, et j'espère captivant à regarder, quoi. Mais en fait, nous, on a vraiment ressenti un enthousiasme très spécial à faire cette série, que ce soit Eric, Tiffen, on a vraiment été une troupe, on s'est vraiment beaucoup réjoui ensemble, on a beaucoup travaillé très sérieusement, parce que la comédie, c'est très sérieux. Et c'est vrai que il se trouve que cet enthousiasme a l'air d'avoir
transporter les spectateurs.
Ouais, traverser l'écran, quoi. Donc, je trouve ça chouette. Ouais.
On va parler un peu de les personnages qui gravitent autour. Il y a celui de Catherine Osmalin qu'on va recevoir dans un instant, d'ailleurs, avec Vinnie Dargo, cette maman complètement fan de Daniel et la maman de Tiffany Davio dans la série. Elle est très drôle, Catherine.
Elle est drôle et je trouve que pareil, elle est ambiguë, quoi, parce que c'est à la fois une mère envahissante et sympathique, quoi. On a vraiment des personnages qui sont assez paradoxaux, quoi. On a tous connu soit chez soi, soit chez des gens qu'on connaissait, des mères qui étaient un peu trop présentes et à la fois tellement aimantes, quoi. Et je trouve que ça m'a fait très très plaisir de pouvoir créer un personnage comme ça.
Et Vinnie.
Vinnie, c'était une vraie découverte pour moi. Je le connaissais de ce qu'il faisait, notamment dans Scène de ménage. Et je trouve qu'il s'est révélé comme un acteur de comédie de haut niveau, quoi, selon mon avis. Et c'est quelqu'un de très agréable, de très sérieux. Je disais faussement désinvolte quand j'ai présenté la série. C'est un peu ça, quoi. C'est un gars assez étonnant qui mérite d'être connu. Et je pense qu'il a vraiment des tas de choses encore à prouver dans ce métier.
Alors lui, je suis le collègue de Tiffen dans la série, qui va pas évidemment la prendre au sérieux au départ, elle va même lui rentrer carrément dedans. Puis au fur et à mesure, ça évolue aussi. C'est ça une série.
Ouais, c'est vrai que dans la série, il y a énormément de retournements, de surprises. Il n'y a pas que lui, je pense que tous les personnages font des grands sauts émotionnels et de personnel, enfin de ouais, et tous les personnages évoluent énormément dans la série. Et c'est aussi ça qui a fait que moi, je m'y suis attaché, quoi.
Ça m'étonne pas. Renaud, là, on a une petite saison, hein. 4 épisodes, c'est pas très, très, très long. Est-ce que, à la fin, sans rien nous révéler, évidemment, est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on peut peut-être imaginer, une suite ou une autre affaire qui pourrait, venir nous embarquer dans une saison future si le succès est au rendez-vous?
Alors, c'est totalement ouvert, ouais. Ouais.
Et t'aurais envie, toi, une saison 2?
Bah, c'est-à-dire que quand on a un tel plaisir, une telle fusion, puis on a construit tellement de choses, parce que c'est un projet qui a mis longtemps à se faire, avec la productrice, avec les productrices, parce qu'il y avait aussi une productrice artistique, Elisabeth, avec les scénaristes, c'est vrai qu'on n'a pas envie de laisser tomber cette troupe, quoi, de gens avec qui on s'est tellement bien entendu, quoi. Alors, on a aussi envie de faire d'autres choses, c'est un peu des choix à chaque fois, mais comme j'ai un tempérament plutôt fidèle, ouais, on a envie.
Eric va être occupé, hein, entre Brigade Anonyme et Murder Club, hein, en tout cas. Merci Renaud d'avoir été avec nous. On va suivre les deux premiers épisodes cette semaine, on va écouter la bande-annonce et puis juste après, on revient avec Catherine Osmalin et Vinnie Dargo qui vont venir également nous parler de leur rôle. À bientôt.
À bientôt, merci.
Vous attendez quelqu'un?
Non.
Vous êtes ce type de la télé, celui qui courait après les tueurs en série? Oh mon Dieu, Juliette.
Il n'y a aucune nouvelle concernant votre fille. Je suis juste ici pour vous aider à la retrouver. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La police, j'imagine.
Inspecteur Amélia Delcourt, brigade criminelle.
Daniel Hansen.
Oui, non, je sais très bien qui vous êtes. Donc je vous déconseille de parler à cette personne. Hein. C'est juste un amateur qui pense être capable de pouvoir faire le travail de la police.
Vous pensez qu'elle a été enlevée, alors?
Écoutez, moi, j'ai simplement vu passer un avis de recherche. Et j'ai été très touché par votre affaire. Alors, si je peux vous aider, vous seriez d'accord pour me parler de Juliette?
Oui.
Asseyez-vous, monsieur Hansen. Je vous sers un café?
Un verre d'eau, je vous remercie.
Murder Club, c'est donc cette semaine sur M6. On revient avec Catherine Osmalin et Vinnie Dargo. Chose promise, chose due. Ils sont là tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous dans Chut, on écoute la télé. Alors, on va continuer à parler évidemment de Murder Club. On a planté un peu le décor avec Renaud il y a quelques instants. Catherine, qui joue la maman de Tiffen. Alors, cette rencontre avec Tiffen Davio, qui est une jeune comédienne pleine de fougue, hein, on peut le dire, hein, qui a une énergie assez incroyable qu'elle déploie encore une fois dans ce rôle.
Ah ben, c'était immédiat. On peut ça appeler ça un coup de foot de partenaire. Je parle pour moi, j'imagine bien qu'elle dira l'inverse, parce qu'elle a beaucoup d'humour. Mais c'était immédiat, franchement, et un plaisir de travailler, parce que je trouvais qu'on aime aborder le tournage pareil. Donc on répétait nos scènes avant, donc on était tout à fait à l'aise quand c'était le moment. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle, à travailler. Je trouve que ça circulait bien, ouais, c'était super.
Alors on va parler du côté fan de Daniel, hein, évidemment dans un instant. Catherine, Vinnie, t'avais déjà tourné toi avec Tiffen ou pas?
J'avais jamais eu l'occasion de tourner avec Tiffen, c'est une grande première. Je l'avais déjà vue dans plusieurs projets. C'est une actrice que j'ai toujours trouvée vraiment admirable, donc j'étais très content de savoir que j'allais pouvoir échanger quelques répliques avec elle. Ouais.
Alors ton rôle en quelques mots, Vinnie?
Mon rôle, je suis le chef de la brigade qui est occupé de trouver un serial killer en cavale. Donc ils pédalent tous dans la semoule. Mais ça, c'est sans compter sur l'arrivée d'une petite débutante et d'un vieux profiler déchu, interprété donc par Tiffen Davio et Eric Cantona.
Et tous les deux sont quand même assez déçus parce que Tiffaine a fait une bourde dans son travail aussi, ce qui fait qu'elle est un peu au placard. Et on va dire que vos relations au départ, hein, sont très conflictuelles quand même, hein, et puis il y a toute une évolution au fur et à mesure qui va se dérouler.
Oui, voilà, disons que c'est un petit peu le schéma classique des personnages que tout oppose au départ et qui finalement, à force de par la force des choses et dans le travail, etc., vont finir par tisser des liens et puis devenir amis, voire même un petit peu plus, quoi.
Ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Peut-être, on sait pas. On ne sait pas. En tout cas, Catherine, je crois qu'on peut dire que ce personnage est fan de Daniel, hein, justement. Ce profiler un peu déchu, mais elle est complètement fan. Elle a jamais douté de lui, finalement. Et quand elle va voir que sa fille fait équipe avec lui, c'est quasiment le plus beau jour de sa vie.
Bah, bien sûr, c'est comme une vraie fan. La vraie fan ne doute jamais de sa star. Et elle a lu tous ses bouquins, elle est en admiration totale. Elle aime de toute façon les faits divers, mais particulièrement les intrigues qu'il a résolues. Et ouais, c'est le plus beau jour de sa vie, bien sûr. Puis moi, ce que j'ai adoré dans ce personnage, c'est que c'est une femme qui veut en être, qui veut en découdre, qui est fan de sa fille aussi, qui pense que, enfin, qui l'encourage à fond. Et c'est vrai que la rencontre complètement inattendue avec son héros, sa star, c'est super. La scène, elle est super drôle. Et il y a plein de scènes comme ça. Moi, je me suis régalée, en fait. C'est tout ce que j'aime jouer. Les gens qui ont envie, quoi. C'est super.
Il y a beaucoup de scènes de comédie justement autour de votre personnage, Catherine.
Ouais. Un peu de comédie, bon, elle s'impose un petit peu, des fois elle va un peu trop loin, mais bon, tout ça c'est drôle.
Ah oui, mais c'est ça qui est drôle.
Voilà, et puis je pense que c'est une gentille maman, même si... Mais c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est ce qu'on s'est dit avec Tiffaine, c'est que pour une fois... qu'on n'est pas dans un conflit ouvert ou en tout cas un truc de génération, que là elles émettent ensemble, elles bouffent ensemble, elles habitent ensemble encore. Moi, ça me réconforte dans mon rôle de mère. Moi, je me dis bah on n'est pas forcément rasoir. Bien, mes enfants ne me disent pas ça de moi, mais ils ont pas trop intérêt non plus. Et mais bon, je rigole. Je fanfaronne, mais c'est vrai que ça m'a intéressé qu'elle soit d'accord, qu'elle soit ensemble, même si Tiffaine, lui donne des limites, ce qui est normal aussi.
Et alors Julien, raconte-nous un peu Julien vu par Vini. Comment tu décrirais toi ton personnage?
Julien Fauvel, c'est un jeune inspecteur de police. On dit plus inspecteur, on dit lieutenant de police maintenant, il me semble.
Hein. Ça rigole pas.
Hein. Et c'est quelqu'un qui est très académique, qui est très attaché à sa position, puis qui est très passionné par son travail, qui aime les choses un peu scolaires, faites de façon sérieuse. Et donc c'est pour ça que le rôle m'intéressait, c'est parce que j'ai pas l'habitude, je suis pas comme ça dans la vie. Donc ça m'intéressait de camper un personnage dans ce genre-là, quoi. Ouais.
S'il devait y avoir une saison 2, on en parlait avec Renaud, qui rêverait effectivement qu'il y ait une suite. Est-ce que la fan de Daniel est prête à rempiler? Est-ce que Julien aussi, pour une nouvelle enquête?
Ah bah oui, bien sûr, à fond. Ça dépend ce qui se passe dedans, mais oui, carrément, dans le principe, pourquoi pas, oui, carrément.
Et puis à revoir évidemment le personnage de Tiffaine, sa fille et Daniel, remener une enquête ensemble. Catherine peut pas rater ça.
Non, et peut-être que je vais faire la connaissance de Fauvel, on sait pas.
Ça se trouve, ils vont
avoir... La brigade entière va venir manger chez moi.
Ouais, ça se trouve, il va y avoir une romance entre eux, si ça se trouve.
Je suis déjà sur Daniel.
Sur Canto.
Ouais, ah, je suis mon personnage. Donc oui, moi je suis pas
le personnage. Je suis personnage entre guillemets.
Je suis pas une femme facile, hein. Je peux pas courir plusieurs lèvres à la fois. Lièvre, oh là là.
Vous avez pas dû vous ennuyer quand même sur le tournage tous les deux. Il y a dû y avoir des belles scènes de fou rire quand même. Chacun de vous peut-être de votre côté, parce que connaissant un petit peu Tiffaine Davio, c'est pas la dernière quand même à rigoler.
Non, on se marre bien avec Tiffaine. Elle est très rigolote dans la vie. Moi, j'aurais bien aimé voir Catherine un tout petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on s'entend bien et puis on se marre bien. Mais c'est vrai qu'en saison 1, on a eu juste une petite entrevue, une petite scène ensemble. Ouais. On n'a pas vu échanger grand-chose, c'est vrai.
Donc il faut vraiment qu'il y ait une saison 2, quoi.
Oui, mais on espère, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'ouvertures possibles qu'on peut vite écrire une suite à tous ces personnages-là. Ils sont tous super. La brigade, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont pas là, mais toute la brigade, ta brigade de flics, ils sont extra.
Ah, ils sont super, ouais. ils sont formidables. Ouais. Sarah Espoir qui est super, Cathy Minjung qui est une comédienne géniale. Très belle rencontre, quoi. On s'est tous super bien entendus.
Il y a vraiment, tout est soigné à la réalisation, la musique, on en parlera la semaine prochaine d'ailleurs, la musique avec Léa Castel et Johan Kériscou qui nous rejoindront pour en parler, parce qu'on aime aussi mettre des fois la bande-son à l'honneur quand elle est chouette. Et là, c'est le cas. Vous êtes super bien accompagnés à tous les niveaux, donc ça donne envie, j'imagine, pour vous de remplir s'il devait y avoir une suite. Scène drôle, alors je disais, oui, est-ce qu'il y a eu un fou rire, une scène particulière qui restera en mémoire. On imagine Catherine, on se projette dans 10 ans, on vous reparle de Murder Club, je dirais, ah oui, cette scène.
Ah ben, bah, la scène de la voiture, bon, c'est, je dis rien, c'est dans l'épisode 4, hein. Je m'en souviendrai longtemps, parce qu'en fait, on n'a pas pu faire le trajet qui était initialement prévu, parce que c'est une voiture dans Bruxelles, donc on était juste en temps, on est parti en impro tous les trois avec Eric qui était derrière, qui se cachait. Ça, c'était un grand moment de jeu, de comédie.
Et on verra cette scène la semaine prochaine, du coup, pour toi, Vinnie.
Disons que oui, au bout d'un moment, parce qu'on a tourné à Bruxelles en été, il faisait très 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 très, très chaud, et les scènes de commissariat, au bout d'un moment, sur la fin du tournage, commençaient à tirer un petit peu parce que c'est des scènes qui sont un peu laborieuses où il y a beaucoup d'informations, où et puis on avait très chaud, on était tous très fatigués et les fins de journée étaient assez compliquées. Il en fallait pas beaucoup pour qu'on parte complètement en cacahuète, quoi. Tiffany aussi, qui connaissait plus, qui savait plus ce qu'elle devait dire, moi non plus, enfin tout le monde était un peu aux fraises. Et puis ouais, on a dû bien prendre un quart d'heure de pause à un moment donné pour
reprendre ses esprits.
Pour reprendre ses esprits, quoi. Ouais, voilà.
J'aime bien l'expression être fraise. C'est pas mal.
Et aussi cacahuète, on voit les images de Vinnie, hein. C'est
exactement vos projets à tous les deux. Évidemment, on continue à te suivre, Vinnie, hein, avec ce personnage de Léo dans Scène de ménage tous les soirs à 20h30 sur M6. Et puis, est-ce que t'as d'autres projets pour la suite en télévision, au cinéma?
Oui, alors c'est surtout du théâtre en ce moment, parce que à l'époque je faisais pas mal de théâtre et j'avais envie de faire de l'image. Maintenant que je fais de l'image, j'ai envie de recommencer à faire du théâtre.
C'est donc toujours insatisfait en fait.
C'est ça que tu veux nous dire.
Et donc voilà, j'ai des belles choses qui se préparent au théâtre et puis une très belle série aussi. C'est une série qui est écrite par un homme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Cyril Menga, qui avait réalisé Louise Wimmer à l'époque, qui avait été césarisé, qui prépare une série qui est un drama social, qui est aussi un thriller, très sombre, très, enfin vraiment, vraiment fascinant, quoi. Donc on est sur le coup, puis on a hâte d'aller jusqu'au bout, quoi.
Voilà. C'est chouette quand on va au bout, justement. Catherine.
Moi, j'aimerais, normalement, je serai au théâtre, j'espère. Moi, j'aime travailler tous les jours, donc, comme j'ai pas la chance d'enchaîner les films avec des jours qui suivent, j'espère que je serai au théâtre, mais bon, c'est un peu tôt pour, c'est pour la saison prochaine, en tout cas.
2024-2025.
Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Vinnie, merci Catherine. Et puis, on vous dit à bientôt.
Merci. À bientôt, merci beaucoup.
Merci, c'était super.
Et Murder Club. Eh bien, on va suivre les deux premiers épisodes cette semaine sur M6.
Enchantée.
C'est qui elle?
La nouvelle.
Je présente votre chef.
Une jeune recrue un peu trop instinctive.
Je traverse une mauvaise passe.
Un ancien profiler un peu trop dépressif.
La police a confirmé qu'il pourrait s'agir d'une victime du tristement célèbre Shakespeare.
Je peux travailler avec vous pour faire équipe. You're
unbelievable. Résultat, un duo improbable.
Rejoignez la cellule Shakespeare, mais je veux plus le moindre écart.
Je vous déconseille de parler à cette personne, hein, c'est juste
un escroc. Plan B, je répète, plan B.
Vous êtes comment en escalade?
En fait, mon plan B, c'est que je me tue, c'est ça.
Arrêtez de geindre un peu là.
Murder Club, votre nouvelle série inédite, mardi 29 octobre sur M6.
On continue notre spécial Murder Club. On accueille quasiment toute l'équipe aujourd'hui pour le lancement de cette série sur M6. On va continuer par nos deux héros qui sont là. Tiffaine Davio, bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Une habituée de l'émission, hein, je crois qu'on peut le dire. Et puis Eric Cantona pour la première fois aujourd'hui dans Suite on écoute la télé. Bonjour Eric.
Ça va?
Ça va très très bien. Très heureux de vous avoir tous les deux pour parler de cette série. Et surtout d'Amélia. On a planté un peu le décor effectivement avec tout le reste de l'équipe. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire toi déjà Tiffaine sur Amélia?
Je dirais que c'est quelqu'un qui a un bon petit caractère, bien trempé. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Et ensuite, peut-être qu'elle est, elle se la raconte un peu trop, mais c'est un truc que j'aimais bien chez elle. Je trouve qu'elle fait toujours semblant qu'elle est à fond, elle est géniale, elle est super. J'aime bien ce petit côté effronté, trop sûr d'elle. C'est pas si courant, en fait, je trouve, de voir ce genre de personnage.
Et pleine d'énergie. Bon, ça comme Tiffaine Davio.
Pas du tout, je vois pas de quoi vous parler.
Non, mais c'est vrai que c'est un personnage plutôt chouette. Puis c'est vraiment le, on va dire, des caractères un peu opposés de ces personnages. C'est ça aussi qui fonctionne dans les séries. Puisque Eric, comment on pourrait présenter Daniel?
Oula.
Vaste sujet.
Oui, oui, oui.
Déjà avec cette petite coiffure qui vous va ravir, Eric.
C'est vrai? Ouais, ouais. Non, c'est bien. C'est un profiler, un grand profiler qui a des zones un peu sombres. C'est pas grand chose de son histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une connerie à un moment donné par rapport à la police, tout ça. Il y a des relations un peu étranges avec son père aussi. qui plonge un peu dans, plus ou moins dans une dépression et tout, mais du coup quand se crée ce duo, je trouve que tous les oppose et en même temps tous les rassemble, quoi.
C'est vraiment deux personnages qui ont connu une déroute, pour le coup chacun de leur côté, et qui quelque part vont s'allier ensemble pour retrouver un serial killer.
Pour essayer de retrouver un serial killer, ouais, ouais.
C'est ça vraiment qui les rassemble tous les deux, et on va voir au fur et à mesure de ces 4 fois 52 minutes s'ils vont y arriver ou pas. En tout cas, cette série, est-ce qu'elle est amenée à connaître tout de suite ? Est-ce que vous avez en tout cas envie s'il doit y avoir une suite, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement bouclé sur ces 4 fois 52 minutes ?
C'est pas bouclé, après ça peut s'arrêter là, ça peut toujours s'arrêter là. Nous, je pense qu'on aimerait bien, enfin je parlais pour moi, mais ça serait chouette d'avoir une suite, ouais. On serait très heureux, mais bon, pour ça, il faut toujours attendre la diffusion. Voilà.
Oui, évidemment. Est-ce que le personnage de Daniel, en tout cas, pourrait revenir s'il y avait une suite ? Est-ce que, en tout cas, Eric, vous aimeriez ?
Quand on choisit de faire un truc comme ça au départ, c'est parce que l'histoire nous plaît. Alors évidemment, on voudrait que ça continue éternellement. Mais après, ça dépend plus de nous, ensuite. Nous, on a essayé de bien faire notre boulot, de bien s'amuser, créer une vraie équipe et essayer de donner. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Après, ça dépend plus de nous. C'est fait pour être partagé. Et ensuite, c'est le public, c'est les chaînes, voilà. D'ailleurs, on l'a tourné il y a longtemps.
Il est temps que ça arrive, c'est ça.
Près de 2 ans, donc ça serait bien que ça soit diffusé. Mais il y a, j'avais fait un téléfilm, Le Colosse. Qu'on avait tourné, il est sorti, finalement il a été diffusé peut-être 2 ans et demi après, on ne savait pas pourquoi, et puis ça a été un carton, quoi. Donc voilà, parce qu'ils essayent de trouver le bon créneau. Je crois que c'est un peu il y a une rivalité avec toutes ces chaînes, et au plus ça va, au plus il y en a des chaînes, au plus il y a de rivalité.
On avait reçu celui que vous incarniez d'ailleurs dans ce film, Le Colosse au pied d'argile, très beau téléfilm pour TF1. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a marqué ? Est-ce que c'est vrai qu'on est sur du thriller malgré tout, mais avec des fonds de comédie quand même très forts déjà entre vous deux. Il y a des scènes de comédie quand même qui sont assez chouettes, en tout cas à jouer.
Moi, je me rappelle un peu tout le tournage. Mais je crois que par contre, je me rappelle d'une journée où on s'est sacrément bien marré. Je sais pas si tu en rappelles, avec Catherine Osmalin dans la voiture là et tout, je sais pas. C'était vers la fin du tournage, on commençait aussi à bien se connaître, et c'était très jouissif, ouais, avec donc Catherine qui joue ma maman, tous les trois, c'était plein de comédie, je sais pas, c'était très agréable. On était un peu surexcités, c'était très rigolo.
Vous connaissiez tous les deux avant ou pas ?
Non.
Pour le coup, vous aviez jamais tourné ensemble ni croisé. Alors comment s'est passée cette rencontre ?
Bah ça s'est super bien passé tout de suite, quoi.
Époustouflé par l'énergie de Tiffen.
Ouais. Ah oui. Ouais. Non, ça fait du bien. C'est bon. Non, on se connaissait pas. On sait jamais trop où on va dans ce genre d'aventure, quoi. Mais c'est aussi le travail d'une production de réunir des gens qui seraient faits pour s'entendre et avec des complémentarités qui correspondent aux personnages aussi. Mais c'est écrit comme ça. Moi, j'ai jamais eu vraiment de mauvaise aventure sur un tournage. Jamais.
Il n'y a pas de raison.
Ça arrive, ça peut arriver. Il y en a qui se nourrissent du conflit aussi, quoi. Mais après, il faut le savoir. Moi, ça m'est arrivé une demi-fois comme ça avec quelqu'un qui avait besoin de se nourrir du conflit, quoi.
J'aime bien une demi-fois, tu sais.
Oui, parce qu'il fallait pas que ça dure longtemps, quoi.
Il fallait vite calmer la situation.
Et ça n'a pas duré longtemps.
Tiffen, impressionné ou pas ? Jouer avec Eric Cantona.
Oui, évidemment, bien sûr. Moi, j'étais trop contente. En fait, si on s'était rencontrés, tu sais, je t'avais raconté une fois quand tu faisais une lecture pour une pièce de théâtre réplique, j'étais toute jeune et tout. Je l'avais trouvé trop sympa, trop chic et tout, élégant, classe, tout ça. Et je sais pas, je m'étais toujours dit, ah la vache, j'aimerais trop un jour travailler avec lui, il a l'air trop cool. Et c'est le cas. Je n'ai pas été déçue du produit, comme on dit. Et non, c'est vrai qu'on s'est tout de suite très bien entendu, c'était très agréable. Je comprends pourquoi t'as pas eu trop de problématiques avec des gens, parce que bon, déjà il est fort sympathique, donc c'est toujours un peu compliqué. En plus, c'est une force tranquille, donc c'est assez agréable. C'est compliqué d'être en conflit avec toi, mais aussi je me frotterai pas à Eric non plus. Donc je comprends que ça a été qu'une demi-fois et que ça s'est vite.
Ça désamorce le conflit tout de suite.
C'est sûr, il est très grand et très costaud et impressionnant, donc c'est sûr que.
En tout cas, c'est un duo bien sympathique que vous formez tous les deux, qu'on va avoir grand plaisir à découvrir avec les deux premiers épisodes cette semaine sur M6 de Murder Club. On va parler des projets. Alors, il y a Brigade Anonyme aussi, Eric, sur M6, qui nous a emmenés durant 2 soirées l'année dernière. Est-ce que c'est une série que vous avez envie de reprendre ? Là, on parle de la disparition d'enfants. Je sais que c'est un thème qui vous touche particulièrement, qui vous touche au cœur pour le coup, puisqu'on a commencé avec la disparition de votre fille dans les premiers épisodes. Et c'est une série normalement qui est amenée à se balader un peu en France et à continuer, on espère en tout cas.
Ouais, mais on en retourne 4 là, le février-mars, je crois.
Ça, c'est la bonne nouvelle déjà.
Oui, bah, comme ça a très bien marché, qu'on a envie que ça continue, du coup, voilà, comme Murder Club, si ça marche, on a envie que ça continue, donc ça continuera. Ce qui m'a plu dans cette histoire, en tous les cas, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire, au départ, on a vraiment enlevé la fille de ce mec, et il va chez les flics, on lui dit, mais non, mais il y a 9 disparitions sur 10, c'est des fugues, donc, sauf qu'après 72 heures, c'est très difficile de retrouver un enfant qui a disparu, quoi. Donc, 72 heures moins 24 heures, ça fait 48 heures, quoi. Donc, le mec, il se met en quête avec plein de gens autour et tout, on l'a retrouvé, et il a réussi à la retrouver. Donc, du coup, il y a plein de gens qui l'ont appelé, ça a été médiatisé et tout. Et puis, je crois qu'il a retrouvé depuis plus de 200 gamins, quoi, mais même des personnes âgées, des fois. Des gens atteints d'Alzheimer ou des trucs comme ça, ou des gens qu'on a enlevés. Non, c'est un vrai mec qui fait de vraies belles choses en dehors des règles de la police, quoi.
En tout cas, on a hâte de retrouver toute la bande avec Harry, avec Marilyn, évidemment, de Brigade Anonyme. Et pour toi, Tiffaine ?
Moi, j'ai un film qui sera au cinéma en février 2025. Mais alors, le dernier titre, je ne le connais pas. Ça s'appelait Vive les mariés, mais voilà, c'est une comédie. Une comédie sur un week-end de mariage qui traite du fait d'un couple qui a décidé de demander à ses potes de venir sans les enfants. Et ça crée toute une problématique. Évidemment, il se retrouve à venir avec les enfants et à les cacher pendant 48 heures pendant le mariage. Voilà, c'est très rigolo. Et autrement, moi, je viens de finir une série pour Disney qui s'appelle Ghost, qui est une adaptation d'une série anglaise de la BBC. Assez drôle aussi, avec des fantômes. Et enfin, là, moi, je démarre une série France TV / dans une prison pour adolescents qui s'appellera Zonze. Et où je ferai une grande méchante, alors je suis assez excitée de ça.
Bon, il y a plein de belles choses en tout cas qui vous attendent. Murder Club, c'est cette semaine sur M6. Le grand lancement, merci d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Merci Eric, merci Tiffaine, à bientôt.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacrés à la série Dans l'ombre qui débarque sur France 2. C'est l'événement de cette série tant attendue, peut-être une des plus attendues de 2024, adaptée du livre de Édouard Philippe et Gilles Boyer, qui est justement avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis directeur de collection et réalisateur des premiers épisodes en tout cas, c'est Pierre Scholler qui nous rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour à vous.
Merci d'être là tous les deux. Gilles, est-ce que dans les rêves les plus fous, quand on écrit un livre comme ça, qui plus est à quatre mains avec Édouard Philippe, est-ce qu'on peut imaginer un jour ce rêve éveillé de voir ces personnages qu'on a écrits, qu'on a inventés, d'un seul coup sur grand écran et incarnés par des acteurs ?
Bon, vous avez dit dans les rêves les plus fous, c'est la bonne expression, parce que sur tous les auteurs qui rêvent d'adapter leurs livres, il y en a très peu qui y parviennent. Bon. Et d'ailleurs, l'adaptation, elle va venir à l'écran plus de 13 ans après que le livre soit sorti, dans un moment où, finalement, on aurait pu y renoncer. Alors que c'est vrai qu'en l'écrivant, c'était dans un coin de nos têtes. On se disait, cette histoire, elle est adaptable. Voilà, on se disait ça, et que ce serait formidable de voir nos personnages prendre vie. Ça se fait plus tard qu'on pensait, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on est très heureux de les voir aujourd'hui dans une adaptation qui est actualisé, parce que le livre a vieilli, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie politique depuis.
Politique a changé aussi.
Politique a changé, les auteurs ont vieilli, voilà, et il y a aujourd'hui des choses en politique qui sont incontournables, comme l'utilisation des réseaux sociaux, les tentatives d'ingérence étrangère que nous décrivons dans la série, et qui, il y a 15 ans, au moment où on a écrit le livre, n'était pas du tout aussi dominant. Donc il a fallu l'adapter, le moderniser, on l'a fait avec plaisir.
Qui a fait le premier pas dans les deux ? Pierre, qui a eu envie, en tout cas, soit d'adapter, ou Gilles, qui vous a démarché.
Ah bah, les projets d'adaptation du livre sont, il y en a eu plusieurs, ils sont anciens, ça a évolué, ça s'est concrétisé par la rencontre des productrices, des auteurs, de l'accord de France Télévisions à aller sur ce projet. Et là, il leur manquait une pièce maîtresse, qui était le réalisateur et le showrunner, et c'est là où ils ont pensé à moi.
Alors justement, on peut expliquer aux auditeurs ce qu'est un showrunner sur une série.
Un showrunner, il est celui qui harmonise, qui donne la cohérence, qui repasse sur tous les épisodes à l'écriture, qui en écrit certains à part entière, qui donne le ton. En fait, ça donne la note principale, un showrunner. voyez, ça donne le rythme, notre principal.
Qui guide aussi, par exemple, un deuxième réalisateur quand vous lui passez la main.
Voilà, j'ai fait les deux premiers mois de tournage. Guillaume Sénèz a fait les deux autres, et effectivement, il s'est un peu calé sur ce que j'avais fait, tout en apportant aussi sa patte. Et puis après, moi, j'ai repris le montage, qui est une étape décisive aussi, qui est la troisième écriture de la série. C'est à la fois une œuvre profondément collective, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup de va-et-vient des textes, de discussions, sur telle réplique, sur telle scène, de la part de tout le monde. Hein. Et puis, il faut aussi trouver quelque chose qui donne la cohérence au personnage. Parce que si ça part dans tous les sens, et qui donne le langage aussi visuel de la série. Voilà.
On va y suivre l'histoire de deux prétendants pour tenter en tout cas de représenter la droite aux élections présidentielles. On va y suivre deux candidats lors d'une primaire. Alors on imagine que la France est à gauche et que la droite essaye de batailler pour essayer de reprendre le flambeau, et que deux candidats à la primaire vont se batailler. Et puis c'est Paul Flanker et Marie-France Trémaux, voilà, qui vont en tout cas tenter de remporter cette primaire, qui est remportée, hein, on va pas trahir de secret, par Paul Flanker. Et c'est là que toute l'histoire, effectivement, va démarrer, sa campagne qui va le mener jusqu'au présidentiel aussi, avec tout le côté ombre aussi des conseillers. On y voit aussi pas mal les arcanes du pouvoir aussi.
Oui, le parti pris du livre qui a été largement repris, c'était d'écrire le fonctionnement de l'entourage d'un personnage politique important, et de voir comment cet entourage se constitue, le plus proche collaborateur, aussi les différentes fonctions qu'on occupe dans un entourage, l'attaché de presse, les gardes du corps, la plume qui écrit des discours, c'est la personne qui organise les réunions publiques, enfin tout ça c'est des vrais métiers, et qu'on retrouve en politique, quel que soit le parti d'ailleurs. Et on a voulu aussi décrire ce qui peut se passer lorsque l'imprévu s'immisce. Ce qui est toujours le cas dans une campagne, lorsque l'imprévu vient perturber une organisation bien huilée, vient instiller du doute, de la défiance, dans un entourage qui paraît soudé. Et lorsque le doute s'installe, le doute sur l'engagement, le doute peut-être même sur le candidat lui-même, et bien à ce moment-là, tout peut potentiellement se dérégler, tout reste très fragile. Et c'est aussi une manière de montrer que on a beau prévoir en politique des plans stratégiques très élaborés, c'est l'imprévu qui commande.
Jamais comme prévu.
Jamais. Et c'est ça qui en fait le sel. Ce qui fait que, voilà, on peut prévoir quelque chose pour dans 6 mois. Mais c'est l'événement du jour qui commande. Toujours.
Comme dit César, mon métier, c'est de dévier les trains qui nous foncent sur la gueule. Et parfois, on y arrive.
Il y a des batailles très, très acides, hein, par moments, hein, même, hein, entre deux candidats qui sont pourtant du même bord. Mais la série n'a pas de parti pris politique malgré tout, c'est-à-dire que c'est assez universel cette histoire-là. Ça, on aurait pu très bien imaginer que la France est à droite et qu'on suive une primaire de gauche. Ça reste très universel, hein. C'est absolument pas une série justement qui donne un parti pris politique, en tout cas.
Non, ça campe à un endroit donné, il fallait bien poser le décor d'une certaine manière. Et pas rester dans un flou qui, à mon avis, n'aurait pas aidé à la compréhension de l'histoire. On serait demandé, tiens, c'est qui, c'est ça. Tandis que là, on pose sur la table un paysage politique, on le déplie et puis on s'amuse avec, en fait.
Melville Poupeau et Karine Viard pour incarner ces deux personnages. Alors on va plus s'intéresser dans un instant aussi aux côtés des conseillers, avec Sofiane Kames et Evelyne Brochu qui vont nous rejoindre aussi, parce que c'est ça que ça raconte aussi avant tout. Mais Melville Poupeau et Karine Viard, c'était une évidence tout de suite, Gilles?
Alors en l'occurrence, on a été très peu, nous, partie prenante au casting, parce que c'est pas notre métier. Ce qui est certain, c'est que on se retrouve avec un casting avec de très fortes personnalités. Je pense que c'est un défi pour un comédien d'incarner un homme politique de premier plan, une femme politique de premier plan. Je pense que c'est pas facile, parce que la politique, c'est l'incarnation, et donc je m'imagine, même si ce sont des acteurs qui sont habitués à des rôles très différents et qui ont fait leur preuve dans des rôles très différents, j'imagine que c'est un défi. Je crois qu'ils l'ont relevé, et nous on est très heureux d'avoir ce casting qui est d'une grande richesse, non seulement sur les deux rôles titres que vous avez évoqués, mais aussi sur ce qu'on peut appeler les seconds rôles, qui sont, je trouve, aussi très réussis.
On va en parler justement, de tous ces seconds rôles, on va tous les évoquer.
Le personnage principal, c'est Swan quand même. C'est le conseiller, c'est l'apparatchik. C'est lui la figure centrale. C'est lui.
C'est le fil rouge.
C'est lui qui, c'est nous, c'est notre regard, c'est lui qui regarde ces figures politiques.
puis ils sont bien dirigés, ces comédiens, quand même, Pierre. C'est ça qui aide aussi, malgré tout, à se mettre aussi dans cette peau-là.
Bah, moi, mon travail, c'est de les aider à aller au personnage et de les écouter, de leur donner confiance. C'est ça, voilà. Mais j'avais des comédiens magnifiques et c'était vraiment un bonheur.
Deux d'entre eux vont nous rejoindre dans un instant, juste après la bande-annonce, Sofiane Kames et Evelyne Brochu, qui seront avec nous. La semaine prochaine, on recevra aussi Clara Antons, qui sera avec nous, qui nous parlera aussi de ce que ça fait d'incarner, d'être la fille, justement, d'un politique. On va explorer un peu, justement, toutes les facettes que peuvent représenter cette série. Merci en tout cas, Gilles. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous encourage, je l'y vais encore pour le coup en vente, on peut le trouver dans le commerce. Et ça peut être bien, justement, de peut-être de lire le livre après avoir vu la série, pour y voir un peu les petites touches d'adaptation.
Merci à vous.
Merci, merci à vous.
Inédit.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Tu sais tout ce que tu dois savoir.
Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment.
C'est-à-dire?
Bah, tu le sais très bien.
Pour la conquête du pouvoir, tous les coups sont permis, à condition qu'il reste dans l'ombre. Votre série événement, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, on continue notre spécial Dans l'ombre. On vous l'avait promis, on continue avec Evelyne Brochu et Sofiane Kames qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler de Marilyn et de Texier, évidemment, pour continuer. On va explorer un peu les arcanes du pouvoir des deux côtés, hein, des deux bords de ces deux candidats, en tout cas à la primaire, de la droite. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré déjà dans ce projet, tous les deux ? Evelyne.
Déjà, moi, il y avait un truc même à la lecture du scénario. C'était un truc très physique, en fait, une réaction où il y avait quelque chose de d'haletant, de très pulsatif. Je me suis mis à respirer différemment. Je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut. C'est un bon thriller si à la lecture on le ressent physiquement. Puis j'ai revécu cette émotion-là en regardant la série. Je me suis dit, bon, mais il a tenu son pari parce que c'est ce truc-là qui était très très rythmique, très vibrant, très vivant, qui était là déjà à la lecture, était, moi, à mon avis, se retrouve à l'écran magnifiquement. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Marilyn. Je trouvais qu'elle avait justement une grande passion, une grande dévotion, un côté idéaliste, mais extrêmement réaliste aussi, ancré dans un quotidien assez finalement brutal, où la majorité des gens se décourageraient, mais elle avance avec tant d'ardeur. Ça me plaisait beaucoup de défendre une femme comme ça.
Sofiane ?
Tout, en réalité, tout. L'idée de travailler avec Pierre Scholler, pour qui j'ai une grande admiration, pour le travail qu'il a fait, le scénario, le rôle, jouer un apparatchik, une espèce de conseiller, de l'ombre, très intelligent, fin stratège, c'est quand même sur le papier très, très excitant, quoi. Et le scénario, et le fait aussi qu'il soit écrit par des hommes politiques, des anciens ministres, qui apportaient
véracité encore plus forte,
ouais, très très forte, et qui nous a permis de pouvoir rentrer dans la fiction.
Alors, une fois que Paul Francoeur va avoir remporté cette primaire, c'est ce qu'on va découvrir, en fait, c'est tout ce qui se noue autour des conseillers, et notamment entre le personnage de Texier et celui de César. Parce que vous avez beaucoup de scènes tous les deux avec Swann Harlow.
Ouais, on a beaucoup de scènes, on a vraiment pris énormément de plaisir, parce que aussi les personnages et tout, c'est des personnages, les deux qui peuvent se comprendre, en fait, ils font la même chose, ils font le même métier, et même s'ils sont un peu en compétition, ils ont une admiration l'un pour l'autre. Ensuite, la suite, ouais, ça va être un combat féroce.
Eh oui, c'est les arcanes du pouvoir. Evelyne, Marilyn, justement, elle est plutôt proche du clan Francoeur, elle.
Moi, ce que j'aimais beaucoup de son rapport avec Francoeur, c'est que il m'est revenu une phrase que j'avais entendue dans mes cours au conservatoire de théâtre, c'est la cour qui joue le roi. Je me suis dit, c'est beaucoup dans notre regard à nous que sa puissance, que sa prestance, que évidemment, pas besoin de rajouter de charisme et de prestance et de tout ça à Melville Poupeau, il y en a déjà beaucoup. Mais je me disais, moi, c'est, en tout cas pour moi, ce qui était intéressant, puis beaucoup de la manière dont Pierre m'a dirigé, c'était de me brancher sur lui, en fait. D'être dans un espèce d'état de quasi dévotion par rapport à cet homme-là, hein, pour lequel cette femme-là sacrifie sa vie, finalement. Puis aussi, il y avait en parallèle ce plaisir-là de jouer l'équipe. C'est-à-dire que c'est des gens, je pense, qui prennent un énorme plaisir à atteindre un but de manière collective, à vivre l'adrénaline de ces joutes-là, de pouvoir ensemble. Puis ça, c'était surtout avec le personnage de César que ça se déployait, cette espèce de notion où tu connais quelqu'un depuis tellement longtemps que finalement, tu penses la même chose en même temps, ces échanges-là de regards, toutes sortes de trucs qui se jouaient en filigrane des scènes. En fait, c'est ça que Pierre aime aussi, c'est qu'est-ce qui...
qu'est-ce qui se passe en dessous dans ce qui est pas dit. Je pense que c'est la musique aussi va dans ce sens-là. Mais moi, en tout cas, le plaisir que j'y ai pris, c'était d'aller dans ces zones-là avec ces deux personnages-là, ces deux acteurs-là, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez appris tous les deux? Vous connaissez pas peut-être sur les coulisses du pouvoir. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a un peu épaté?
Leur résilience, leur courage.
Ils sont assez proches de votre métier finalement aussi, à tous les deux, votre métier d'acteur.
Ouais, mais après nous on est un peu plus fragile vis-à-vis de la critique si on se fait allumer. Et eux, c'est tous les jours.
Il faut qu'ils soient barricadés eux.
Ouais. On se demande où se trouve, où se cache leur émotion. Comment ils font? Et il y a la scène avec, j'adorais avec Karine quand elle apprend qu'elle a perdu, sur le point de craquer, mais il faut vite qu'elle a une posture à avoir. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa place de femme dans ce monde-là, que c'est ça switch vite, quoi. Je trouve ça formidable la manière dont elle a traité.
Surtout qu'elle s'y attendait pas, parce qu'elle était la favorite dans les sondages. C'est toujours des choses qui peuvent effectivement arriver. Ça, c'est vraiment les 5-10 premières minutes, en tout cas, qu'on va découvrir dans cette série. Hein. Est-ce que vous verriez, en tout cas, tous les deux, parce que on s'est adapté du livre, hein, on discutait il y a un instant avec Pierre et Gilles qui étaient avec nous, mais une fois passée cette adaptation, on peut effectivement décliner cette histoire peut-être sur plusieurs saisons, où on peut mener encore plus loin peut-être le personnage de Franqueur ou de Marie-France d'ailleurs. Est-ce que vous verriez en tout cas endosser vos rôles s'il y avait une deuxième ou une troisième saison, un peu à l'instar des Hommes de l'Ombre il y a quelques années?
Ça pourrait même durer 30 ans, puis ce serait Caligny qui finalement serait le président de la France.
On parlera avec lui la semaine prochaine, tiens, puisque Baptiste sera notre invité d'ailleurs.
Ouais, moi j'ai tellement eu plaisir avec cette équipe, autant ceux qui étaient devant, derrière la caméra, j'y retournerai avec joie. Ouais.
Oh oui, complètement. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit ça à l'avenir. Parce que normalement c'est qu'une saison, je pense.
Ouais, mais on sait jamais. Et puis Texier peut devenir peut-être demain ministre. On sait pas.
Je pense que c'est signe d'une bonne série quand on envisage déjà la suite, où c'est comme si l'univers se déploie au-delà des scènes, au-delà de ce qui nous est donné. Je pense que ça veut dire qu'on a réussi à créer quelque chose de vrai puis de vivant, puis qui va finir par s'élargir dans l'esprit des gens, dans l'âme des gens, dans le souvenir des gens, dans la projection qu'ils vont en faire.
Si on peut faire une petite introspection sur vos personnages, comment il est vu Texier par Sofiane Gomez?
Moi, je l'aime bien, Texier. C'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui arrive. Contrairement à moi, quand tu programmes, tu dis bon bah cette gorgée, je vais pas la prendre tout de suite, je vais la prendre dans 10 minutes. Et l'autre demain. Et c'est quelqu'un comme ça quoi. Alors que moi, je finis la bouteille là tout de suite.
Instinctif.
Ouais, plus instinctif. Ouais. Ouais.
Marilyn, vue par Evelyne.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a tout sacrifié.
C'est une dévotion complète à Paul Franqueur. Hein.
Ouais, absolument. Pour son projet, pour cet homme-là. Mais je pense qu'elle, tous les humains ont un besoin d'intimité. Je pense qu'elle a même réussi à loger une certaine forme d'intimité au sein de cette équipe-là. Mais c'est comme si autour de cette bulle-là, il y a un grand désert, hein, puis on le voit dans nos scènes à la maison. En tout cas, on voit César avec son chat et tout. Il y a une sorte de, autour de la bulle de la politique auquel ils sont tous accros. Et c'est très aride, leur vie personnelle. Puis ce qui est beau de voir, c'est de voir cette femme-là qui essaie de se bâtir une bulle à l'extérieur de la bulle. Puis la lutte, on va voir dans les épisodes qui s'en viennent, la lutte qu'elle va devoir mener pour y arriver. Puis même, est-ce qu'elle va y arriver? C'est très beau de voir ce combat-là.
C'est ce qu'on va découvrir au fil des épisodes, en tout cas. Sofiane, un film, alors pas politique, mais un film militant, en tout cas, sur lequel tu as participé, c'était au printemps dernier, La Promesse Verte, que vous pouvez découvrir d'ailleurs en VOD et DVD pour cet automne. Et vraiment, je vous conseille ce film, il est incroyable, un film d'Edouard Bergeon, qui va aider Alexandra Lamy, en tout cas, à essayer de faire libérer son fils, qui est condamné à mort en Indonésie.
Exactement.
Il est fou, ce film.
Ouais, c'était fou de tourner à Bangkok, d'aller filmer cette histoire dans ces paysages-là, c'était de se retrouver dans la jungle et tout, c'est complètement fou.
Ça fait prendre une conscience aussi assez impressionnante, y compris, moi j'ai vu plein d'enfants dans les salles, sur les avant-premières et sur les projections, c'était assez fou ce qui s'est passé.
C'est ça la force d'Edouard, déjà dans son premier film, c'était tellement, tellement émouvant, et la force d'Edouard aussi c'est de toucher un grand public avec des messages que parfois on n'entend pas en fait ou qu'on n'entend plus. Et Edouard, il a cette faculté là de vous embarquer dans une histoire avec de l'émotion et avec un message fort et qui soit entendu par beaucoup de gens. Et en tout cas, je vous encourage à, si vous n'avez pas vu le film, à le découvrir en DVD.
Voilà. Et en VOD, effectivement, puisque c'est sorti. Evelyne, les projets, on termine aussi.
Eh bien, moi, je suis en tournage en ce moment même pour la saison 3 de Paris Police. Donc, ça, on est en 1908.
Pour Canal.
Je suis ravie de retrouver mes collègues merveilleux. J'ai très hâte que vous découvriez cette saison que j'affectionne particulièrement.
Ça rapporte plus 2025, effectivement. Si, hein. Merci en tout cas, tous les deux.
Merci.
À
bientôt.
Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial Sentinelle Ukraine. C'est demain soir à partir de 20h50 sur Cineplus OCS, votre chaîne que vous allez pouvoir découvrir cette saison 2 de cette collection avec Antoine Zimalka qui est avec nous, le producteur. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Amard est avec nous également, le réalisateur. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va être rejoint par Louis Pérez dans un instant aussi, bien évidemment, pour cette spéciale. On lance après Sentinelle, la première saison. Saison 2, Ukraine. On est basculé la nuit de l'attaque russe en Ukraine, où il va se passer plein de choses, évidemment, pour nos personnages. C'est aussi une ultime saison, pour l'instant, en tout cas, de cette collection Sentinelle, qui est d'une qualité incroyable. Quand on l'a vu, on est tout de suite baigné dans l'effroi à la fois de cette guerre, et puis vraiment dans une empathie réelle avec tous ces personnages qui vont venir graviter au fur et à mesure de cette action. Qui a eu l'idée, si on devait repartir un peu en arrière, de cette collection Sentinelle ? Est-ce qu'on peut appeler ça plus une collection du coup, hein ?
Tout à fait. C'est né il y a désormais 7 ans, en 2015, après les attentats de novembre 2015 en France, dans la tête d'un jeune scénariste à l'époque qui était Thibaut Valtoux, scénariste qui était en étude à la FEMIS, département section écriture de séries télé. Et il a l'idée, après les attentats, de faire quelque chose sur des jeunes militaires. Il est jeune lui-même, il a 25-28 ans à l'époque, et il voit des militaires de son âge dans la rue, il les voit à différents endroits, et il se dit, mais qui sont ces jeunes qui sont engagés sous le drapeau, pourquoi, comment, et ça l'intrigue, et il a cette idée de créer une série Sentinelle qui se base à la fois sur la vie un peu en caserne en France et sur le terrain. Donc on a créé une première saison au Mali, puisqu'à ce moment-là l'opération Barkhane au Mali était l'actualité majeure de l'armée française, si on peut dire, et donc on a fait cette série avec OCS qui nous a commandé la série. On était très heureux de la faire, et au moment de faire une saison 2, s'est posé la question d'un nouveau terrain de guerre éventuellement, même si on aurait peut-être pu continuer au Mali, mais on avait quand même envie d'aller ailleurs parce qu'on avait l'impression d'avoir fait le tour de l'opération Barkhane. Et différentes hypothèses ont été mises sur la table pour différents terrains de guerre où il y avait l'armée française qui était concernée. Et au moment du début de l'écriture, et la guerre en Ukraine a éclaté en février 2022, et on avait commencé dans une direction, et puis on s'est dit, bah, en fait, l'Ukraine est le sujet le plus brûlant, le plus chaud, le plus d'actualité, et Sentinelle est une série aussi d'actualité qui réagit à chaud avec ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'on est parti, en se disant, sans doute en avril 2022, Frédéric Krivin, le co-auteur de la série, a dit, mais il faut vraiment partir dans cette direction-là, il faut partir sur l'Ukraine. Et petit à petit, l'écriture nous a mené donc sur ce terrain de guerre sur lequel il n'était pas évident naturellement de faire marcher une dimension armée dessus, mais on a trouvé, je crois, un bon compromis entre des destins de personnages civils et des destins de militaires français.
Ah, c'est une série hyper ambitieuse. L'image est assez incroyable, Jean-Philippe. Comment on trouve, justement, avec une économie comme celle de Cineplus OCS, il faut faire des économies à tout niveau, pour le coup, pour arriver à en plus s'ancrer dans cette espèce de réalité terrible.
Sur l'aspect filmique et la mise en scène, dès que je commence à avoir des premières impressions d'écrits, de scènes, de personnages, je commence un petit peu à échafauder et à laisser aller mon imaginaire. Très rapidement, des images me viennent, je commence un petit peu à étudier la lumière, le cadre, pourquoi cadrer comme ça, quel format, tout le temps être au service du récit, en fait, et des personnages. Ça, c'est totalement essentiel, d'être au plus proche de ce qu'ils vivent et au plus proche de ce qu'ils ressentent. Et très très rapidement, au bout de quelques semaines, il y a des premières lignes qui se dessinent, et puis après, au fur et à mesure de la prépa, des discussions avec la déco, avec la lumière, le chef opérateur, eh bien, on commence à échafauder quelque chose où se dégage quand même une esthétique. Ce qui est hyper important, c'est d'être juste, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on raconte, de pas fabriquer un univers esthétique qui serait à côté. Donc d'être au plus près entre ce que je ressens des textes, ce que je ressens pour les personnages, et puis la manière dont je vais le filmer et l'éclairer.
C'était tourné où ?
C'était tourné en Lituanie, dans la périphérie de Vilnius.
C'était tourné là-bas pour la partie ukrainienne majoritairement, et on a tourné une partie roumaine de la série, puisque on a toute une partie qui se passe en Roumanie avec nos soldats français qui sont envoyés en mission OTAN en Roumanie, et cette partie-là a été tournée dans l'est de la France, dans la région Grand Est, à côté de Reims, sur la base militaire de Mourmelon.
Ah oui, d'accord, en France, du coup. Donc ça a vraiment été un voyage entre la France, la Roumanie et la Lituanie, du coup. Alors comment on commence un peu toute cette histoire, puisque Pauline Parigot et Louis Pérez ont repris leur rôle dans cette saison 2. On va retrouver le personnage de Pauline dans un hôpital où elles viennent chercher un enfant qu'elles ont fait par GPA, hein, si je me trompe pas. Et puis elles vont croiser évidemment tout plein d'autres histoires qui vont s'entremêler avec quelques petites surprises politiques dans cette histoire aussi. Et puis le personnage de Louis qui va évidemment tenter de décortiquer tout ça comme à son habitude aussi.
L'idée, comme je vous disais, il était à partir du moment où on a décidé d'aller sur le terrain de la guerre en Ukraine pour faire une saison 2, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait raconter. Et là-dessus, Thibaut Valtou et Frédéric Krivine ont échangé. Une idée est venue et basée sur l'actualité. Ce n'est pas basé sur une histoire vraie, ce qu'on fait sur Sentinelle Ukraine, mais c'est basé sur de l'actualité. C'est-à-dire que on a découvert l'existence de cliniques GPA dans le Donbass, dans lequel il y avait des Occidentaux qui venaient pour récupérer un enfant qui allait naître au moment où la guerre a éclaté. Et on a trouvé la situation absolument incroyable d'avoir des destins de personnages qui viennent sincèrement, avec tout l'amour et toute l'angoisse qu'on peut avoir en étant futur parent, récupérer un enfant qui va naître, n'est pas né, et encore dans le ventre d'une mère porteuse ukrainienne. Les Russes sont à quelques kilomètres de là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment ça se passe? Comment on gère ce drame humain avec une guerre à la frontière de là où on se trouve? C'était vraiment l'un des enjeux majeurs, et de prendre aussi le point de vue dans cette saison 2 des civils. C'est-à-dire que la saison 1 parle beaucoup des militaires sur le terrain, au Mali, en opération Barkhane. La saison 2 parle beaucoup de civils qui se retrouvent sur un terrain de guerre et qui subissent la guerre, voire même la font presque plus, malgré eux, que les militaires qui, eux, sont à la frontière avec la Roumanie et sont de l'autre côté du terrain de guerre en protection de l'Europe, des frontières de l'Europe, mais ne sont pas confrontés comme le sont là les civils.
Trois soirées pour découvrir comment ils vont se sortir, en tout cas, de cette situation, ou pas, peut-être, selon certains, on verra. Mais il se pourrait que le destin devienne tragique peut-être pour l'un des personnages. C'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure de cette saison. Mais on va évidemment rien vous dévoiler, puisqu'on va vous laisser découvrir Sentinelle Ukraine. Ça démarre demain soir sur Ciné Plus OCS. Vous aurez ensuite les deux épisodes sur MyCanal. Et puis tous les mardis pendant trois semaines, vous allez pouvoir suivre leurs aventures. Antoine.
Une mini précision, si vous n'avez pas vu la saison 1 au Mali, aucun problème pour regarder la saison 2 en Ukraine.
Ah oui, elle est complètement, c'est très indépendant. Oui, 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 tout à fait.
Exactement, puisque vous pouvez bien entendu la retrouver sur MyCanal, la saison Sentinelle Mali, mais Sentinelle Ukraine se regarde de façon autonome sans avoir vu Sentinelle Mali.
Jean-Philippe, pour terminer, un moment particulier de tournage, difficile peut-être, une ambiance particulière. J'imagine quand on fait un tournage comme ça, c'est pas tous les jours à la comédie non plus.
Non, ça a été très très éprouvant, mais en même temps l'aventure était telle que ça s'est fait avec beaucoup de plaisir. Je tiens aussi à saluer l'équipe lituanienne qui était particulièrement engagée sur le projet, du fait qu'ils ont la Russie non loin de chez eux et qui sont vraiment dans l'angoisse totale d'être envahis. Donc il y avait aussi cet enjeu là qui a vachement compté, ainsi que certaines comédiennes ukrainiennes, notamment les mères porteuses qui font tout le périple avec les autres couples, qui vivaient dans la fiction des choses qu'ils avaient pu qui étaient assez proches d'elles, et donc c'était très intense. Et une scène qui m'a vraiment particulièrement qui a été à la fois fascinante à tourner et très très émouvante, c'est la scène d'accouchement en pleine forêt.
Mais il y a des moments assez dingues, et quand on voit tout sur un terrain de guerre tout ce qui peut se passer, en tout cas c'est très très réaliste. Moi je vous conseille en tout cas d'aller découvrir cette série. On va continuer à en parler dans un instant. Louis Pérez va nous rejoindre aussi, on va écouter la bande annonce, et puis je vous souhaite plein de belles choses en tout cas, et puis n'hésitez pas à les découvrir sur MyCanal si vous la ratez demain soir. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Les Russes sont en train d'attaquer l'Ukraine.
Montez dans vos voitures.
C'est la guerre, donc prenez le strict nécessaire et montez dans ce putain de van.
On part pas sans les bébés.
Pourquoi on va pas les chercher tout simplement?
Vous voulez déclarer la guerre à la Russie, le fort?
On est dans la putain de campagne ukrainienne, y a rien, qu'est-ce qu'on peut faire?
Le lieutenant Collet, quelque part dans le Donbass, en train d'essayer d'en sortir.
Si on apprend que je suis ici pour faire une GPA, ma carrière politique est terminée.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Sentinelle Ukraine qui démarre demain soir sur Ciné Plus OCS. Et on a un des héros qui est avec nous, qui joue le rôle de Julien, Louis Pérez, qui est là. Bonjour Louis.
Salut à tous.
Merci d'être avec nous. Deuxième saison pour Sentinelle. On repart sur un nouveau concept après le Mali, direction l'Ukraine, et on va être projeté à la veille de l'invasion russe. Ça fait tellement résonance, cette histoire.
Malheureusement, oui, résonance, et on est 2 ans après, et ça fait encore écho, c'est encore d'actualité. Donc, oui, c'est un projet qui a été émotionnellement très intense et qui malheureusement résonne encore.
Alors, qu'est-ce qui t'a décidé, en tout cas, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce projet-là dès le départ déjà? Déjà au moins sur l'opération Mali, déjà, dès la première saison.
Alors, dès la première saison, j'ai lu le scénario et je me suis dit, ok, ça va être une aventure. On va forcément tourner dans un désert, on va forcément vivre des expériences hors du commun. Et je pense que c'est le bonheur chez un acteur, c'est de vivre ces aventures-là. Donc dès la saison 1, j'ai lu le scénario et je me suis dit, allez, je vais y aller, ça va être une vraie expérience, et j'ai pas été déçu.
Alors ton personnage va tenter en tout cas de délivrer dans cette nouvelle saison, ou d'aider en tout cas à sortir des personnes un peu prisonnières dans un hôpital, hein, en quelque sorte, et va devoir un peu les exfiltrer, surtout qu'elles sont en attente en plus d'un enfant par GPA. Ça va compliquer évidemment la situation de tout ça, et puis les Russes qui se rapprochent. On est dans la région de Donetsk, qui est évidemment le théâtre d'affrontements très très dur. Est-ce que ça a été un tournage éprouvant?
Alors ça a été un tournage vraiment éprouvant sur beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'était l'environnement, qui un peu comme la première saison où il faisait très chaud, là il faisait extrêmement froid, on est allé jusqu'à moins 23. Pour parler et donner ses répliques alors qu'on a les lèvres qui peuvent absolument pas bouger, les mâchoires pareilles qui sont gelées, je vous laisse imaginer le bonheur. Et ensuite, sur un aspect émotionnel, ça a été très fort pendant les 2 mois. En fait, on était avec des acteurs et des actrices qui étaient ukrainiens ou ukrainiennes, qui étaient réfugiés, qui avaient encore de la famille là-bas, qui étaient partis pendant la pause de Noël et qui nous racontaient comment Kiev était sous les bombes. Et puis ensuite, on allait dans les magasins et la vie, en fait, se passait. Et ça, je remercie toutes ces personnes qui se sont ouvertes et qui nous ont permis d'avoir une esquisse de ce que peut être leur réalité.
Alors, c'est vrai que c'est très dur. Vous avez tourné dans quel endroit, là, pour le coup?
On a tourné, pour ma part, parce qu'il y a deux histoires différentes. Il y a aussi une base de l'OTAN en Roumanie. Mais pour ma part, c'était en Lituanie, à côté de Vilnius, la capitale.
Oui, il y a des décors, c'est assez réputé, hein, pour avoir des décors de cinéma et de télévision qui sont absolument grandioses, pour le coup, dans ce secteur-là. Le rôle de Louis, ça fait 2 saisons que tu le tiens, tu le disais, t'as connu la chaleur, t'as connu le froid. Est-ce qu'il y a malgré tout, sur ces 2 saisons, un souvenir qui restera marquant, ou dans 10 ans, quand on te parlera de Sentinelle, tu diras, ah oui, il y a ça qui revient?
Alors, c'est le bonheur de ces 2 saisons, c'est qu'il y en a énormément des souvenirs qui pourraient me revenir. Dans cette saison, il y a la rencontre avec des Ukrainiens, en fait. La rencontre et leur expérience. Et évidemment, je vais pas le raconter ici parce que c'est du domaine du privé, mais
on sort du cadre presque et là, pour le coup, professionnel, et on est rattrapé par l'humain là dans ce genre de situation.
Ben on est rattrapé. Voilà, la fiction est rattrapée par le réel, par l'humain. Et lorsque j'ai vu des personnes nous dire que ah ben cette situation je l'ai déjà vécue, cette situation mes parents l'ont vécue, tout ça dans une actualité brûlante et désastreuse. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie.
S'il y avait une saison 3, même si c'est pas prévu au programme pour l'instant et que c'est plutôt fini, on sait que d'ailleurs un des personnages emblématiques, ça va mal finir pour lui dans cette saison-là, mais en tout cas, s'il y avait une saison 3, est-ce que toi t'aimerais? Est-ce qu'on va laisser le suspense? On va pas dire si c'est ton personnage ou pas, évidemment, mais est-ce que t'aimerais, toi, y retourner?
Moi, je suis particulièrement attaché à ce groupe. Même là, on tournait moins avec eux, Jonathan, Antoine Pelletier, Samy, tout le monde. Et Jean-Philippe, donc en fait, si le groupe repart, je repars.
C'est un projet hyper ambitieux, c'est ce qu'on disait en tout cas. Si vous voulez découvrir Sentinelle Ukraine, c'est à partir de demain sur la chaîne Ciné Plus OCS, et vous pourrez le retrouver évidemment ensuite sur MyCanal, évidemment, dans la section OCS. Louis, des projets pour la suite, puisque
Là, ça y est, on est fin octobre, là, on va découvrir cette saison 2, mais est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour les semaines à venir?
Alors, il y a une autre série sur Canal, là, qui s'appelle Les Sentinelles, où j'ai encore la chance d'évoluer dans les premiers rôles, et ce sera sur la Première Guerre mondiale. Et je prépare aussi un film qui s'appelle L'île de la demoiselle, que j'ai commencé à tourner il n'y a pas longtemps.
Eh bien, écoute, merci à toi Louis d'être passé nous voir Sentinelle Ukraine demain soir sur Ciné Plus OCS. Un rendez-vous à ne pas manquer, une série hyper ambitieuse que vous allez pouvoir découvrir, où l'humain est aussi au cœur de l'histoire. Et puis la semaine prochaine, c'est Pauline Parigot qui nous rejoindra pour parler également de son personnage. Merci Louis, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'aimerais chanter,
sortir du silence pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien de tout, et que tout tourne autour de nous.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Brigade du Fleuve qui sera diffusé sur France 3. Ça sera samedi soir à partir de 21h10. Nul doute que ça va faire un carton. Et surtout avec ce beau casting qu'on va retrouver avec Thomas Jouannet et surtout Roxane Turmel qui est avec nous en ligne. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Si vous l'avez adoré dans le rôle de Sylvia, la sœur de Francesco dans Plus belle la vie, et qui a fait d'ailleurs son grand retour dans la nouvelle version TF1, vous allez adorer Katia Lestrade aussi dans Brigade du Fleuve, je n'en doute pas ma chère Roxane.
Écoutez, j'espère que le personnage va plaire et que surtout le film va plaire.
Alors c'est un pilote justement de ce qui pourrait devenir peut-être une collection ou une série. On va retrouver cette brigade de gendarmerie établie en Touraine, mais qui surtout s'occupe beaucoup
d'enquête qui les emmène souvent dans l'eau, aquatique aussi, hein, par exemple, dans le Val-de-Loire. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet, en tout cas, Roxane ?
Un peu tout, parce que on s'est beaucoup amusé. On a été toute l'équipe, que ça soit d'ailleurs l'équipe comédien et l'équipe technique, on s'est vraiment amusé. On s'est très très bien entendu. Il y avait une super ambiance sur le tournage. Donc déjà, c'était hyper agréable de tourner tous ensemble. Et puis, c'est vrai que le rôle de Katia, qui est une nana, voilà, qui débarque, la petite nouvelle, et qui, au final, met un peu tout le monde à l'amende, qui arrive dans ce groupe d'hommes.
Qui ne la prennent pas toujours au sérieux dès le début, hein, quand même. Hein.
Et non, il y a des petits, voilà, des petites blagues. Ils ne sont pas super chauds qu'une petite nouvelle arrive au milieu de toute cette testostérone. Et c'est plutôt rigolo, quoi, parce que je ne vais pas me laisser faire du tout.
Oui, et puis il y a quelques belles scènes, évidemment, avec Thomas Jouanet, qui joue Victor Flaubert, justement, qui est le commandant, qui va donc devoir enquêter sur la découverte du corps d'une jeune archéologue dans la Loire. Et ça va vous emmener dans des lieux incroyable, le château de Chambord, quand même.
C'était merveilleux. On a tourné dans des lieux de dingue. C'est vrai que le château de Chambord, c'était fou. Quand on a tourné, le château, il y avait des visites, hein, donc il y avait plein de gens qui étaient là. Et avec Thomas, on était en combinaison de plongée. et on nous voyait, on était sur une petite voiturette pour aller sur le lieu du tournage. Il y avait les touristes qui prenaient en photo le château, puis après nous. C'était rigolo.
Génial. Roby Eskenazi, Ibrahim Koma, Pasquale Dinka, Jeanne Bourneau, qu'on retrouve dans Le Négociateur aussi sur TF1 à côté de François-Xavier Demaison, Laurent Bateau, alors je ne sais pas si c'est lui le coupable, mais souvent il a une tête de coupable dans les séries, donc on verra bien. David Brécourt, entre Ibrahim Koma et David Brécourt, j'ai l'impression que la réalisatrice s'est entourée de personnes qu'elle connaissait dans une autre vie.
Oui, j'étais sur Sous le Soleil, évidemment, avec Bénédicte. Donc c'est des gens qu'elle connaissait bien, qui sont de très bons comédiens. Et moi je les connaissais pas, donc j'ai été ravie de les rencontrer. Non, vraiment, c'est tout tellement bien entendu, ça fonctionne bien, je trouve. Donc après on verra.
Bénédicte, on la connaît en comédienne, bien sûr. On connaît aujourd'hui son talent incroyable pour la réalisation. Elle a fait des films comme Elle, les filles du Plessis ou d'autres, franchement, qui sont merveilleux. Et aujourd'hui, Bénédicte, elle est comment en tant que réalisatrice? Raconte-nous.
C'est une excellente réalisatrice parce qu'elle est aussi bonne à la technique en tant que directrice d'acteur, quoi, parce que je pense le fait qu'elle ait été comédienne, en tout cas, elle a un œil très fin et c'est très, très, très agréable d'être dirigée par elle. Et en plus, elle vient de sortir un roman, donc en plus de ça, elle a des talents d'autrice. Donc,
elle a tous les talents, Bénédicte Delmas, c'est vrai.
Ouais.
Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu garderas comme souvenir? Est-ce qu'il y a une scène particulière que tu garderas en tête?
Alors, je pense quand même que la scène qui me marquera, ce sera la scène de la piscine. Ce jour-là, nous avons eu très froid, très très froid, parce qu'on tournait à l'extérieur et qu'il faisait pas chaud. Et on a bien ri, mais on était congelés et c'était un super moment, où on fait un peu la compète dans la brigade et c'était très très chouette à tourner, très drôle et même si c'était très froid.
Roxane, tu es aussi au Théâtre Antoine, dans la pièce Aladdin, aussi, où tu es en alternance, avec une autre comédienne.
Oui, de Jean-Philippe Daguerre et Igor de Chaillé. On joue au Théâtre Antoine là jusqu'à janvier. C'est un jeune public, donc on joue en matinée, surtout les vacances scolaires et puis les week-ends. Et je joue le rôle de la princesse Yasmine, je m'amuse beaucoup. Ça change complètement du coup de la lieutenante Katia Lestrade. Mais c'est super de jouer ça, voilà.
Bon, super. Montmartre, bientôt, sur TF1 aussi, hein, puisque tu vas démarrer le tournage en novembre.
Ouais, c'est super. Là, c'est un tournage qui approche avec un casting de folie et où je vais jouer une danseuse de cancan dans le Montmartre des années 1905-1910. Donc, c'est vraiment un grand rêve de jouer une série d'époque comme ça. C'est
TF1. J'ai hâte de te voir danser le French cancan.
Moi aussi, j'ai hâte de me voir danser le French cancan.
Bon, et Sylvia, a-t-elle tourné la page complètement ou est-ce que si un jour Francesco était de retour, parce qu'il n'est pas mort, hein, Francesco, il pourrait revenir un jour, est-ce que sa sœur, en tout cas, elle serait d'accord pour faire un petit retour sur une arche événement comme ça a été pour les débuts du retour de Plus belle la vie?
Oui, complètement, ça serait, moi je me suis vraiment, c'est une famille, hein, Plus belle la vie, ça a été,
qui a changé beaucoup de choses pour toi.
Pour moi. Ça a changé beaucoup de choses. Moi, je venais du théâtre, j'avais pas tourné, donc c'est vrai que c'était une super expérience et humainement, surtout en fait. professionnellement bien sûr, mais humainement aussi beaucoup. Et donc oui, avec grand plaisir, mon personnage n'est pas mort, donc à partir de ce moment-là, je peux revenir à tout moment. Mais oui, ce serait avec plaisir de revenir sur une intrigue.
On reste en contact en tout cas, Brigade du Fleuve, ça c'est samedi à 21h10 sur France 3, on ne le rate pas avec Roxane Turmel, et puis il y a plein de beaux monde, Pascolé, Dinka, Thomas Jouanet évidemment qu'on adore et qu'on embrasse aussi, et voilà, plein de beaux monde, et on va se quitter avec un extrait, ma chère Roxane, à très vite.
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
À très bientôt.
À très bientôt.
Je vous demande d'accueillir chaleureusement la lieutenante Katia Lestrade.
Merci à tous.
Katia, je te présente la brigade. Le major Achille Verdim, dit papy. Les frangins, mais néanmoins adjudants Camille et Samuel Lavergne. Quant à Lucie Cavage, pardon, madame la juge, tu la connais déjà.
Merci à tous. Je suis très fière de rejoindre la fameuse brigade fluviale. Et je vous assure que je ferai tout pour me montrer à la hauteur.
Bon, allez, désolé d'interrompre ce moment, mais le PROC a ouvert une information judiciaire et il compte sur nous pour résoudre ce qui s'est passé ce matin.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera l'événement. Nous aurons le grand honneur d'accueillir Claude Lelouch et Kad Merad qui seront avec nous. On continuera à parler également de la série Dans l'ombre. On consacrera également une partie de l'émission au téléfilm événement de France 2 Seul avec Pierre Isoard et Samuel Le Bihan. Et puis on continuera aussi à parler de Murder Club pour cette deuxième soirée.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas, plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.